我的心，只给你。
Bonsoir. Au centre du débat dans cette émission, prévision budgétaire 2009, les projections des provinces tiennent-elles compte des préoccupations de la population ? Je vous signale que la réunion technique de concertation entre le gouvernement central et les gouvernements de province se poursuit à Kinshasa. Ces travaux ont commencé depuis mardi 18 novembre dernier. Objectif, doter le gouvernement Mobutu de son projet de budget 2009 à déposer au Parlement. Ce projet devrait intégrer les prévisions budgétaires des provinces. On en parle avec nos invités, Hubert Massala, le député national du PPRD, Médard Moulangala Loakabwanga, le député national, rapporteur de la Commission économique et financière à l'Assemblée nationale et président de l'Union pour la majorité républicaine, parti politique de l'opposition politique, et le syndicaliste Jean Bosco Founa, il est secrétaire général du SINECAT, syndicat national des écoles conventionnées catholiques. Merci pour vos réactions, on en parle avec nos invités tout à l'heure. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission, réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Prévision budgétaire 2009, je vous ai dit, les projections des provinces tiennent-elles compte des préoccupations de la population ? C'est la question principale du débat ce soir. Dans l'introduction de cette émission, je vous l'ai déjà dit, gouvernement central et gouverneur des provinces sont en concertation à Kinshasa depuis mardi 18 novembre dernier. Les travaux se déroulent à huis clos et pourraient se clôturer demain vendredi. Toutes les provinces ont déjà publié leurs prévisions budgétaires en discussion au cours de cette réunion de Kinshasa. Comment se présentent ces projections budgétaires des provinces ? Les détails avec vous, Pierrot et Lamégie.
La plupart des provinces ont choisi de revoir à la hausse leurs prévisions budgétaires 2009. La province du Katanga a prévu de tripler son budget, soit 197 milliards de francs congolais contre 102 milliards en 2008. La ville de Kinshasa entrevoit 158 milliards contre 86 milliards. Quant à la province du Kassai-Occidental, le budget est allé à 155 milliards de francs congolais. Dans la province orientale, le budget est passé des 48 milliards de francs congolais à 74 milliards de francs. La province de l'Équateur, les budgets 2009 est de 56 milliards contre 32 milliards en 2008. Quant au budget de la province du Bas-Congo, il s'élève à environ 101 milliards de francs congolais. Tous ces budgets ont retenu comme axe prioritaire pour 2009 l'amélioration des infrastructures de base, la santé, l'enseignement ainsi que la relance des activités agricoles.
Voilà, c'est là les prévisions budgétaires des provinces. Nous avons un invité, il est seul dans ce studio, mais les deux autres sont au téléphone, et donc celui qui est au studio, il s'agit bien de Médard Moulangala Loakabwanga. Bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, Médard, c'est vrai que le budget national, ou du moins le projet que le gouvernement doit déposer au Parlement, n'est pas encore prêt, mais vous avez suivi là juste une idée de ce que les provinces projettent pour 2009. Pour la plupart, elles ont soit doublé, soit triplé ces prévisions. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je dois dire que je n'ai pas encore vu les chiffres présentés par les provinces en détail, et que d'autre part, je n'ai pas encore eu la chance de voir le budget du gouvernement. Et je pense que si on constate une augmentation significative du budget des provinces, cela est dû au fait que notamment les 40% de retenue à la source se sont appliqués. Soit en matière de chiffres, je ne vais pas m'avancer trop vite, il faudrait que je voie les données chiffrées, que je voie les hypothèses de travail, pour me prononcer de manière tout à fait certaine.
Je vais vous donner déjà quelques chiffres. Par exemple, pour le Bas-Congo, on sait que c'est à peu près 101 milliards de francs congolais. C'est plus ou moins 175 millions de dollars, si nos calculs sont bons. Le Katanga, qui devrait avoir le budget le plus élevé, c'est plus ou moins 197, si vous voulez, milliards de francs congolais. Plus ou moins 260 millions, si encore une fois nos calculs sont bons.
Bon, je crois que il est un fait qu'en 2008, on n'avait pas intégré dans les provinces de manière systématique n'a pas les 40%. Cette fois-ci, je crois comprendre que la question a été débattue, que ça a été vidé, mais comme je l'ai dit, soit en matière de chiffres, il faut attendre que nous ayons des données pour pouvoir les analyser. Mais sur le plan de principe, juste un commentaire.
Oui.
Il faudrait qu'il y ait la même interprétation, la même compréhension de la manière dont les 40% doivent être retenus à la source. Ce débat-là, on n'a pas vidé pour le budget 2008. J'espère qu'en 2009, cette question sera vidée et pourra être mise en œuvre. Je veux dire aussi d'autre part que, comme toujours, on n'est pas en mesure d'apprécier l'action gouvernementale parce que le gouvernement ne le soumet pas l'État l'exécution du budget.
Vous parlez du budget 2008.
Budget 2008, 2007, 2006, cette pratique n'a pas été respectée. Or, cela est une des conditions, c'est une loi qui est votée dans notre règlement intérieur, et on a beau écrire au gouvernement, ça ne vient pas. Alors, à partir de là, devant tant d'opacité, il est difficile d'avoir un jugement. Basé sur des faits réels.
Oui.
Donc, on se demande pourquoi il y a cette propension du gouvernement à refuser de respecter la loi, à refuser de l'appliquer. Cette violation systématique des textes, tant au niveau du gouvernement que du chef de l'État, nous inquiète. Et nous sommes en train de voir là, il faut le dire de manière très claire, une dérive qui inquiète. Parce que les textes sont clairs, on ne peut pas les appliquer. Pour quelles raisons?
Alors, on reviendra peut-être à l'application des textes. D'abord, pour voir avec Hubert Massala. Bonsoir, monsieur Hubert.
Bonsoir.
Vous êtes député national du PPRD. Vous pensez que les provinces sont réalistes lorsqu'elles doublent, si pas triplent, leurs prévisions budgétaires?
Oui, d'abord, une observation. Je ne suis pas député du PPRD. Je suis député de l'Alliance pour le renouveau du Congo, ALC.
Oui, qui est allié oui. avec le PPRD et à l'AMP, voilà.
Ah oui, je me sens
merci
de l'AMP, mais je suis
merci beaucoup, Hubert. Merci, Hubert.
Oui. Il faut lire des choses telles qu'elles sont.
Merci, Hubert, on a compris. Merci pour la précision.
Je peux répondre à la question. Vice-président de la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale.
Oui.
Et même que vous avez présenté notre ami, Lona Moulangala, je crois que il faudrait que les précisions soient en attente.
Là, on a du mal à vous capter.
Voilà, donc, c'est ça, je tenais à cela pour que les choses soient nettes.
Non, les choses sont claires. Oui.
Alors, par rapport au doublement à ce que vous évoquez du budget des provinces, je crois que ce qui est important de savoir, quels sont les éléments de base d'élaboration d'un budget. Il y a des déterminants importants. Il y a notamment les niveaux du PIB, c'est-à-dire les niveaux des richesses qui sont créées et sur lesquels, dans une entité, l'État peut impacter ses impôts. Et c'est la partie qui revient aux impôts qui constitue le budget de l'État. Dès lors que les provinces auront démontré sur une approche technique qu'ils ont basé leurs prévisions sur des éléments crédibles et plausibles, je crois que là, a priori, nous ne pouvons pas dire qu'ils ont mal fait. Et qu'ils seraient mal fait si jamais on démontre même qu'ils ont minoré leur budget parce que les éléments fondamentaux d'élaboration du budget auraient été négligés. Alors, comme a dit l'honorable Moulangala,
oui.
Dès lors que nous n'avons pas encore les chiffres, ni les documents qui accompagnent les niveaux retenus du budget, je crois que nous ne pouvons pas nous déterminer déjà pour dire que c'est exagéré ou bien non exagéré.
Oui, mais justement, moi je vous ai donné quelques chiffres ici à votre collègue Meda Moulangala, qui est aussi votre collègue au niveau de la commission, vous avez tenu à le dire. Vous pensez que, parce que les chiffres sont avancés, hein, 100, je l'ai déjà dit, 101 milliards de francs congolais pour le Bas-Congo, 197 milliards de francs congolais pour le Katanga, c'est environ 260 millions de dollars pour le Katanga, et 175 millions de dollars pour le Bas-Congo, ça sont les provinces d'ailleurs qui ont le budget le plus élevé hein, au niveau du pays. Vous pensez que c'est sur quelle base en fait ces provinces peuvent avancer ces prévisions?
Mais
c'est pas définitif, évidemment, c'est connu.
Les bases sont connues, c'est comme je dis,
oui.
Ce sont les éléments de création des richesses au sein d'une province. Comment une province peut apprécier la création des richesses? Les provinces produisent. Il y en a qui produisent des minerais. Il y en a qui produisent des biens agricoles. Les provinces rendent des services. Il y en a qui transportent des personnes, donc des privés transportent des personnes. Alors sur la création des biens et services, c'est ça qui détermine. L'État impose donc ces actions-là qui sont générateurs de moyens pour l'État. Mmh. Si quelqu'un transporte et il a un bus dans une province, il transporte des personnes, il fait un chiffre d'affaires de tel à la fin d'une période. L'État impacte donc, taxe ses revenus qu'il a eu et l'ensemble de tous les revenus que l'État a dû réunir, c'est ça qui constitue son budget. Alors, sans compter bien sûr les autres types de revenus qui reviennent à l'État comme des dividendes par rapport à ce que rapportent les entreprises du portefeuille.
Oui.
Alors maintenant, nous autres, pour que nous puissions être en mesure de dire est-ce que les provinces ont des budgets qui sont réalistes, c'est que nous devons avoir sous notre regard les éléments qui ont guidé. Si par exemple, la province du Katanga dit par exemple budget de 12 milliards, la province du Katanga dit par exemple que ma province va produire l'équivalent de telle tonne de cuivre, par exemple. Et sur cette tonne, voici le chiffre d'affaires qui sera réalisé par les gens qui exploitent les cuivres. Et ce chiffre d'affaires étant peut-être de 100 millions, moi je prends 10%, alors à ce moment-là, je prends 10 millions.
Okay.
Ça, c'est sur le plan des minéraux. De même sur les produits et le plan agricole. Et même sur le plan des services, les banques qui travaillent, parce que l'impôt, c'est-à-dire ce qui constitue l'essentiel des recettes de l'État, on n'imagine pas ça sans voir l'activité productrice.
Oui, Hubert Massala, on va revenir à vous, on va revenir à vous pour essayer de préciser tous ces éléments. D'abord, pour recevoir aussi Jean Bosco Pouna, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Oui, vous êtes syndicaliste et souvent associé d'ailleurs à l'élaboration des budgets. C'était le cas du budget 2008. J'imagine que vous attendez beaucoup du budget 2009.
Oui, tout à fait. Il faut dire que les enseignants particulièrement attendent le budget 2009. Mais sachez que l'arrière 2008 n'a pas jusqu'à ce jour été corrigé.
On a un problème avec votre ligne, Jean Bosco Pouna. On va vous demander peut-être de vous déplacer un tout petit peu pour essayer d'améliorer la qualité de votre ligne.
Ah, oui, oui.
Pendant que la réalisation s'affaire à améliorer la ligne de Jean Bosco Pouna, je reviens d'abord dans ce studio avec vous, Médard Moulangala. Puisque vous avez dit tout à l'heure ici que voilà, l'exécution du budget 2008-2007, on en a déjà parlé, ça ne vous est pas parvenu, le gouvernement ne vous l'a pas envoyé. Est-ce que cela facilite la tâche aux provinces qui ont préparé leur prévision budgétaire 2009?
Disons ceci, que le constat qui est fait de manière générale, c'est que dans certaines provinces, malheureusement, tout m'a touché à ça, au niveau national, il n'y a pas ce respect des règles. C'est un problème de fond, c'est un problème d'approche politique. Pour nous, nous disons ceci, on nous présente un budget qui a augmenté de manière sensible, très bien. Il faut voir sur le terrain comment cela se traduit. C'est traduit par quoi? Or, depuis pratiquement 2 ans, au de ma province, que c'est occidental, on n'a pas vu beaucoup de choses se développer de ce côté-là. Donc, à partir de là, nous disons que c'est bien d'avancer des chiffres qui paraissent doublés, importants, qui impressionnent au départ, mais c'est sur le terrain qu'on doit juger l'action du gouvernement. Et sur ce plan-là, je dois dire malheureusement que, pour le moment, je ne suis pas convaincu. Je souhaite que ça change. Je suis là pour le changement, moi aussi. Mais sur le terrain, je dois dire, et je suis triste de le dire, je constate qu'il n'y a pas pour les réalisations. Et si nous ne contrôlons pas, comment savoir de quelle manière les ressources sont utilisées? Donc, il y a un problème fondamental qui est là, c'est que le contrôle de manière générale dans le pays n'est pas fait au niveau qui convient, tant au niveau national qu'au niveau provincial. Et cet écueil-là fait qu'on n'est pas en mesure de corriger, d'orienter, voire de sanctionner. Alors, à partir de là, comme député, quel est notre rôle? Bon, moi, je dis, tout cela est bien beau, mais il faut que sur terrain, on voit les travaux, il faut que chacun, à ce niveau, puisse faire sa mission, à l'autre de faire quoi? De contrôler.
Oui, puisque vous êtes financier, vous êtes dans la commission économique et financière, en tant que rapporteur, les provinces ont avancé certains chiffres, est-ce que ces chiffres vont forcément être rabattus à la baisse au niveau du gouvernement central?
Je ne peux pas le dire. Ça dépend, comme je disais au départ, de la manière dont on va gérer la retenue à la source des 40% qui est dans la province. C'est un débat fondamental. Nous en avons parlé un peu à la commission nous-mêmes. De voir maintenant, c'est vous le gouvernement, c'est la province, ce qui a été débattu, décidé, et ce qui sera retenu. Tout comme nous disons ceci, il faut que l'esprit dans lequel on a fait le texte qui prenait 40% en province soit respecté. Il faut que rapidement cela se mette en place de manière transparente, crédible, et qui permette aux provinces de faire vraiment leur mission.
Et avant de passer aux attentes de la population, d'abord avec vous, Jean Bosco Pouna, j'espère que la ligne s'est améliorée.
Je disais que pour le budget 2009, en tout cas pour les enseignants et pour les agents et fonctionnaires de l'État, c'est que l'arrivée 2010 doit d'abord être corrigée. Parce que il nous semble que ce qui avait été prévu pour le budget 2008 en faveur des enseignants n'a pas été appliqué. Et c'est hors de question pour nous qu'on puisse parler du budget 2009 sans qu'on résolve d'abord cette arrivée. Donc, c'est là tout le problème. Alors, nous pensons que par rapport au rôle que devrait jouer le Parlement, en tout cas cette fois, le Parlement sera avec agent pour que les enseignants, les fonctionnaires de l'État puissent quand même trouver leur compte, ce qui n'a pas été en 2008. Voilà ce que nous pouvons dire à ce niveau.
Et
donc, nous, nous sommes
Oui, vous allez répondre, mesdames.
Oui,
mesdames. Oui, mesdames, vous allez répondre.
Exactement, tenir compte des aspirations des bases, des fonctionnaires, des agents de l'État et des enseignants qui continuent à travailler dans la précarité.
Voilà. On va passer aux attentes de la population par rapport au budget 2009. Je vous l'ai dit, les projections des provinces tiennent-elles compte des préoccupations de la population ? Nous nous retrouvons pour la suite de cette émission, juste après ce rappel de notre comptable.
Dialogue au Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Les projections des provinces tiennent-elles compte des préoccupations de la population ? Mais avant de poursuivre le débat, nous avons posé la question à quelques Congolais à travers le pays. Ils parlent de leurs attentes du budget 2009. Ils s'expriment au micro et téléphone du réseau Okapi, au Katanga, province orientale, Bandundu, Bakongo, Équateur et Kinshasa. On les écoute.
J'arrive d'un côté, je suis à Kisangani, j'ai l'air exotéré, de penser un peu sur la route, l'agriculture.
Je suis Stan Mukweti Maliba, je habite au Bandundu. Je demande vraiment c'est que le gouvernement puisse renforcer la sécurité de personnes et leurs biens.
Je suis Jean-Pierre Kokonis, dans Mandaka, et mon souhait le plus ardent est que le budget, tant au niveau national que dans les provinces, puisse refléter la politique de réduction de la pauvreté.
Matondo, Zambi, la Matadi,
si on pense aux routes, aux ports, pour faciliter l'acheminement des biens, des matériels et autres aliments.
Olivier Kizigou de Kinshasa, le gouvernement devrait prioriser l'infrastructure routière et la santé. Si nous n'avons pas de route pouvant acheminer des produits de première nécessité, nous ne pourrons jamais arriver à nos attentes.
Jean-Paul Mbenza, j'habite Matete. S'il y a une priorité à donner au gouvernement, c'est le premier concerne la santé. Ensuite viendra la partie sociale s'il y a possibilité.
Je m'appelle Tom Swatchimich, territoire de Bilolo. Pour nous, ici à Bilolo, nous attendons dans les budgets de l'exercice 2009 du gouvernement la réhabilitation des routes d'intérêt national, des routes de desserte agricole et l'implantation d'une institution financière au niveau de notre district.
Voilà, on a suivi ce qu'attendent les Congolais, notamment les routes d'intérêt national, des desserts agricoles, la santé, les salaires, la sécurité. Est-ce que vous pensez, Jean Bosco Pouna, que le budget 2009 répondra à toutes ces attentes?
Bon, je pense que lorsqu'on parle de budget chez nous au pays, eh bien, nous avons toujours eu des problèmes au niveau de la mobilisation des recettes de l'État parce que ce budget est toujours gangréné par la corruption, par la fraude, ce qui fait que le budget congolais, c'est toujours des budgets squelettiques. Et donc, je crois qu'il y a un effort pour l'exécutif de pouvoir améliorer cette phase de la mobilisation pour que nous ayons des recettes acceptables et qui puissent arriver à assumer les dépenses publiques. Lorsqu'on revient sur tout ce que les camarades viennent de dire tout à l'heure, eh bien, si c'est la même politique d'autrefois qui est utilisée, nous sommes certains que rien ne va se faire. Et alors, il faut ajouter qu'il y a un écart considérable entre le budget prévu et le budget exécuté. Nous avons toujours remarqué qu'on peut voir, par exemple, 140 milliards de francs pour les PSP, mais lorsqu'il y a l'exécution, eh bien, vous ne savez pas.
Voilà, on a perdu Jean Bosco Pouna. Je reviens vers vous, Hubert Massala, député national de l'Arc et premier vice-président de la Commission économique et financière à l'Assemblée nationale. À l'Arc, c'est un parti allié de l'ANP. Monsieur Hubert Massala, lorsque vous voyez la situation économique actuelle de la RDC, est-ce que le budget 2008, qui était d'environ 3 milliards, vous pensez que 2009, on aura un peu plus pour répondre à toutes ces attentes de la population, Hubert Massala? Monsieur Hubert Massala? On l'a perdu encore, Pierrot et la Mégie et Chaïka Berli vont se battre pour essayer de les avoir. Nous avons Médard Moulangala. La situation économique, elle se présente. Vous pensez que on peut bien avoir un bon budget 2009, une bonne enveloppe pour répondre à toutes ces préoccupations de la population que vous avez suivies?
Je crois reconnaître que depuis quelques temps, le budget effectivement est accru de manière quand même remarquable. Il faut reconnaître cela. Mais d'autre part, malgré cette croissance du budget, le problème qu'il y a, c'est la manière dont le budget est exécuté.
C'est là le grand problème.
C'est là le problème. C'est là le problème de fond. Et tant qu'on n'aura pas résolu ce problème-là, on ne pourra rien faire. C'est vrai, je le concède, qu'il y a eu des problèmes qui sont intervenus de manière brutale, parfois surprenante. Je parle de la sécurité dans l'Est, je parle de la guerre avec Gunda. Ce sont des problèmes réels qui sont là, qu'il faut résoudre, et qui ont un impact budgétaire qu'on ne peut pas négliger. Cela étant dit, le vrai problème dans ce que nous voyons dans ce pays, c'est le problème de la manière dont le budget est exécuté. Je vous donne un exemple. En 2008, nous avions voté à l'Assemblée que l'on puisse faire un projet visible par territoire. À ce jour où je vous parle, rien n'a été fait.
Et vous avez fait quoi, vous, en tant que député?
Notre rôle comme député, comme je dois vous le rappeler, c'est de faire des lois et de contrôler. Nous ne pouvons que parler.
Questions écrites,
questions orales. Non, c'est-à-dire qu'à ce stade, nous avons choisi de faire le débat dans l'Assemblée, dans l'hémicycle. C'est un choix qu'on a fait comme homme politique, comme acteur politique. Nous avons fait le choix de faire, de contester au sein de l'institution. Dans cet endroit-là, il y a des règles qui sont précises. Il y a une majorité, il y a une minorité. La majorité gouverne, la majorité dirige, la majorité exécute le programme qu'elle a mis en place. S'il n'y a rien sur le terrain, ou s'il n'y a pas assez sur le terrain, on ne se trompe pas. Il faut regarder vers cette majorité et poser des questions essentielles. Notre rôle est lequel, je le répète, nous devons chaque fois poser la question, chaque fois interpeller, faire connaître cela à l'opinion et organiser une certaine résistance par rapport aux abus que nous avons dénoncés jusqu'à présent.
Oui, mais en attendant d'avoir... Voilà, Hubert Massala est revenu en ligne. Monsieur Hubert Massala, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous, monsieur, j'avais un problème technique.
Voilà, ça arrive à tout le monde, hein, vous avez compris.
Oui.
Monsieur Hubert Massala, alors, je vous repose la question, hein, parce que il y a Médard Moulangala qui a posé le problème ici de l'exécution du budget. Et pour lui, l'exécution du budget RDC, c'est le plus grand problème pour notamment arriver à répondre aux préoccupations de la population. Nous avons suivi tout à l'heure, vous avez suivi peut-être avec nous aussi, les problèmes. Les gens attendent des routes d'intérêt national, des routes de desserte agricole, la santé, la sécurité, les salaires. Est-ce que la situation économique actuelle de la RDC permettra à l'équipe Mouzito, avec tous les gouverneurs qui en ce moment sont à Kinshasa, de sortir un budget plus costaud, capable de répondre à toutes ces préoccupations?
Oui, merci. La préoccupation n'est pas d'avoir un budget costaud. L'essentiel, c'est d'avoir un budget réaliste, c'est-à-dire qui a été élaboré sur des bases tout à fait fiables. Et élaborer un budget de toutes choses, mais l'exécuter, c'est une autre chose.
Oui.
Ici, pour ce qui est de notre pays, c'est vrai, la situation d'abord interne ainsi qu'internationale, et quelque peu se trouve être un peu maussade avec la guerre chez nous-mêmes, avec la crise internationale et même alimentaire. Mais ce qu'il faut comprendre, que dans l'exécution du budget congolais, il y a deux aspects fondamentaux qu'on ne prend pas souvent en compte. Le premier aspect, c'est que le budget se base sur, comme je disais, la création des richesses, c'est le PIB. Comment le PIB a augmenté de telle sorte que l'État puisse de prévaloir de cela pour avoir sa quantité qui se trouve être en termes donc des impôts. Mais il y a aussi un assouplissement chez nous. Souvent, le budget de l'État est quelque peu minoré du fait que la hauteur des richesses créées qui doivent être imposées est sous-estimée, ignorée, faute des statistiques. Et à cela, on a cette question quand nous disons que nous, notre produit intérieur brut est de l'ordre de 9 milliards de dollars américains. Mais ce n'est pas vrai. Quand on a des statistiques, on peut arriver, peut-être en intégrant le secteur informel, à un PIB de l'ordre peut-être du double. Et à ce moment-là, notre budget double normalement.
Est-ce que vous...
Il y a aussi un autre aspect, c'est
oui.
la fraude.
Oui.
Dans notre pays, il manque la culture fiscale. Quand les gens ne paient pas les impôts, c'est normal que vous ayez un budget qui ne peut pas être exécuté, parce que le budget, c'est quoi? On prévoit des recettes. Et il faudrait que les recettes soient payées. Et quand on ne les paye pas, même si les prévisions ont été fondées sur des aspects techniques fiables, à ce moment-là, on exécute.
Et même quand on les paye, il reste aussi à savoir si elles sont bien gérées.
Pourquoi d'abord les gens, on gère mal peut-être les recettes qu'on paye? Parce que les gens ne payent pas eux-mêmes. Mais dès lors que vous êtes conscient que vous payez vos impôts, vous serez en mesure à pouvoir poser la question, mais qu'est-ce qu'on a fait de nos impôts? Et j'avais l'expérience qui est en train de se
faire. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Je ne fais pas la publicité de qui que ce soit.
Oui.
Mais les gens n'espéraient pas la vignette, l'assurance. Maintenant, on leur dit, voilà, nous faisons ceci. Et à la fin de l'opération, on dit, voilà les montants que nous avons eu. Qu'est-ce que nous pouvons faire avec ces montants? Si les Congolais se disent, nous payons, mais alors, quand nous voyons qu'il y a des personnes qui peuvent, sans raison quelconque, tout en travaillant dans les circuits des fiscs, c'était pas l'occasion d'un enrichissement sans cause.
Oui.
À ce moment-là, vous verrez que les gens suivent.
Oui, les gens,
et que nous,
les
on ne paye pas les impôts, on ne suit même pas le truc.
Oui, les gens payent la vignette, mais les routes, par exemple, sont toujours en très mauvais état.
Mais quel est le montant? Parce que c'est ça, un des problèmes, c'est que les Congolais n'étaient pas appréciés, ils n'ont pas parfois le sens de la mesure.
Oui.
Qu'est-ce que ces vignettes peuvent avoir produit?
Oui.
C'est ça qu'il faut d'abord savoir.
Oui.
Quand on produit, par exemple, 2 milliards, 3 milliards, à ce moment-là, vous dites, avec les 2 milliards, on construit, par exemple, 10 km de route. Mais il ne faut pas croire, parce qu'on a payé la vignette, qu'on peut construire toute la ville de Kinshasa.
Oui. On va revenir...
Il faut qu'on ait le sens de la mesure.
Oui. On va revenir aux attentes de la population aussi, Hubert Massala, très rapidement, hein, parce qu'on doit passer la parole aux autres invités. Oui. Il y a Blaise Osongo qui nous écrit de Kananga, au Kassai occidental. Il pense que le Parlement ne devrait pas voter le budget 2009 sans connaître où sont partis les restes des fonds du budget 2008.
Mais
vous avez
raison.
Oui.
Il faut savoir que les recettes de l'État sont les prévisions. Et ces prévisions peuvent être réalisées ou non. Quand on n'a pas utilisé le budget, cela ne veut pas dire qu'on a eu cet argent qu'on a mis dans une caisse. Je ne suis pas en train de défendre le gouvernement. Mais c'est ça le principe. C'est vrai, le gouvernement peut arriver à garder peut-être des fonds dont l'exécution aurait permis de faire quelque chose pendant l'année. Mais les prévisions, ne sont pas une caisse quelconque. Les prévisions veulent dire, c'est comme quelqu'un qui veut aller au marché.
Oui.
Il dit, quand je vais arriver, je vais voir mon frère, à côté, il va me donner 10 francs, et en gratuit, j'aurai un oncle qui travaille au Parlement.
Oui.
Alors, si tu arrives, ce frère-là, je ne te donne pas les 10 francs.
Oui.
Mais tu vas, tu as fait un mauvais budget.
Oui. Voilà.
Quand tu arrives au Parlement, ton oncle ne te donne pas 100 francs.
Oui.
Tu ne seras pas faire. Donc, c'est pourquoi il faudra que, vraiment, vous, les médias, vous avez ce droit-là. Il faut que pendant la période budgétaire, qu'on explique à notre population.
Voilà, c'est l'occasion que nous vous donnons, mais là, justement, vous allez répondre.
Répondre à M. Okongo à Kananga, qui a fait une très bonne remarque, et prendre un seul chiffre. Dans le budget 2008, le Premier ministre Gizenga nous a déclaré, du haut de la tribune, nous avons approuvé, qu'en 2008, il y aura des projets à impact visible dans le budget, notamment pour les PSP. La construction de 6134 écoles. Si j'ai le rapport, ici, c'est moi qui l'ai lu. Mais qu'est-ce qu'il y a sur le terrain? Rien. Il n'y a rien, et c'est ça qui nous inquiète. Nous ne comprenons pas pourquoi ce gouvernement, de manière systématique depuis pratiquement 2 ans, ne parvient pas à mettre en œuvre de manière transparente les projets qui ont été votés par l'Assemblée. Il y a un problème qu'on nous dise.
Oui. Alors, il y a, je vous garde encore parce que c'est vous qui avez encore la parole, mais juste pour rebondir avec cette autre question ou message, avis qui vient de Gervais, qui nous écrit de Calémi, dans la province du Katanga. Il dit que les prévisions budgétaires 2009 ne pourront répondre aux attentes de la population des provinces que lorsque le gouvernement
aura appliqué, il s'agit du gouvernement central, aura appliqué la retenue à la source de 40% produite par la Constitution.
J'en parlais tout à l'heure. Je crois comprendre que pour le moment, il y a des discussions qui sont en cours entre le gouvernement et les provinces, et que le moment venu à l'Assemblée, nous pourrons, comment dirais-je, proposer une solution qui puisse contribuer à mettre en œuvre effectivement ces 40% au niveau des provinces. Cela étant dit, il y a une chose dont on va parler, la bonne gouvernance. C'est ça la chose qui est fondamentale dans cette démarche-ci.
Donc on peut bien voter le budget 2009,
mais si on ne suit pas les règles, s'il n'y a pas d'appel d'offres qui sont faits, s'il n'y a pas de transparence dans les marchés, s'il n'y a pas de contrôle, que voulez-vous faire? À partir de là, rien ne peut réussir. Nous disons ceci, nous, à l'opposition. Nous constatons que de manière systématique, il y a quelque part une volonté de ne pas faire le contrôle. Tout le monde se plaint que dans l'armée, l'argent n'arrive pas chez les militaires. Mais tout le monde le sait, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors à partir de là, nous disons ceci, c'est que tant qu'il n'y aura pas ce souci de bonne gouvernance au niveau du gouvernement central, avec une application stricte des règles qui sont prévues, il n'y aura pas de solution durable dans ce pays. On aura beau faire des budgets de 3 milliards, 4 milliards, 5 milliards, tant qu'on ne veut pas mettre de l'ordre et garantir la bonne gouvernance dans ce pays, rien ne va se passer. C'est ça la vraie question que nous devons nous poser. Est-ce que ce gouvernement est-il, oui ou non, en mesure, est-il, oui ou non, la volonté politique de changer les choses? C'est ça la vraie question. Et moi, j'ai bien peur, quand je vois la manière dont les choses sont faites, que nous soyons déçus à la fin. Nous le sommes déjà. Donc à partir de là, moi j'interpelle les amis qui sont avec nous à l'Assemblée de se dépasser, d'aller au-delà des clivages politiques et de poser des vraies questions parce que nous sommes tous concernés par cela.
Alors Hubert Massala, parce qu'on a des problèmes pour joindre Jean Bosco Pouna, nous continuons avec vous Hubert Massala, en rappelant à ceux qui viennent de se joindre à nous que nous parlons des prévisions budgétaires 2009, les projections des provinces tiennent-elles compte des préoccupations de la population? Nous avons Hubert Massala, député national de l'ARC, parti politique allié de l'ANP, il est premier vice-président de la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale. Mesdames Moulangala, Lwakabonga, député national, rapporteur de la Commission économique et financière, toujours à l'Assemblée nationale, et président de l'Union pour la majorité républicaine, parti politique de l'opposition. Nous avons des problèmes avec le syndicaliste Jean Bosco Pouna. Hubert Massala, alors, il y a cette question de 40%, c'était la question posée par notre auditeur, mais Gervais de Kalemi, dans la province du Katanga. À cela, Mesdames Moulangala ajoute la bonne gouvernance, la transparence, comme un facteur clé pour que le budget 2009, quel que soit le volume, quel que soit son enveloppe, réponde aux préoccupations de la population. Qu'est-ce que vous répondez?
Oui, je suis d'accord avec Laurent Moulangala lorsqu'il parle de la bonne gouvernance. Effectivement, notre pays, de ce côté-là, a des problèmes qu'il faut relever pour que, effectivement, des améliorations soient faites dans l'élaboration et l'exécution du budget. Mais il ne faut pas non plus que la bonne gouvernance suppose, parce que lorsqu'on a commencé avec le concept de bonne gouvernance, il y avait quelques trois éléments clés. Le premier élément clé, c'était le pays doit faire montre de ses citoyens des impôts. Deuxièmement, il faudra que la transparence soit de mise dans la gestion. Et il y avait un autre élément concernant notamment, bien sûr, la démocratie. C'est ça la bonne gouvernance. Or, ici, chez nous, nous avons souvent l'impression que lorsqu'on parle de la bonne gouvernance, on nous jette la pierre qui est du côté de gouvernants. Moi, je me dis, notre pays, pour peu qu'on ait la volonté, que la volonté politique s'exprime pour que la culture fiscale soit là, nous arriverons nécessairement à avoir des budgets qui seront costauds et à même de répondre aux préoccupations de nos populations. Sans cela, la bonne gouvernance, un pays, comme je dis, avec une structure fiscale, on ne peut pas parler de la bonne gouvernance. Et il faut que les efforts, comme je disais, soient réalisés pour demander à la population de faire ça. L'esprit de la Constitution sur les 40%, c'était une façon de ne pas faire en sorte que Kinshasa ou le pouvoir central s'accapare de tous les revenus produit par les provinces. Et si on a demandé que ce qui est produit dans une province, 40% soit retenu et 60% soit envoyé au niveau des pouvoirs centrales.
Oui, mais si vous pensez...
Je ne peux pas dire que le budget d'une province n'est constitué que de ces 40%, parce que la province a également l'occasion de réaliser des recettes à travers des impôts qui sont locaux, notamment.
Oui, mais
alors, mais dans certaines provinces
oui.
qui ont des moyens de produire localement mieux, les 40% peuvent représenter peut-être juste 10% de son budget.
Oui.
Dans d'autres provinces où l'organisation pour récolter, collecter les impôts localement ne sont pas tout à fait fournis, ces provinces peuvent vivre avec les 40% comme représentant 80% par exemple de leur budget. Donc tout cela est même, parce que l'esprit de l'article 75 de la Constitution dit bien que le budget national ou de la République comprend le budget des provinces.
Oui.
Alors, il ne faut pas confondre les transferts, c'est-à-dire quand Kinshasa par exemple dit « je me délaisse de 40% en faveur de la province A » et la province A budgétise ce montant-là. En fait, au niveau national, il n'y a pas 80%. Ce sont des transferts, comme on dit.
Oui,
ce qui doit être quelque chose d'original, c'est ce qui est soit identifié par province, et ce n'est pas tous ces transferts-là qui peuvent donner l'impression de gonfler le budget, alors qu'il n'en est pas question.
Merci bien. Merci bien. On va poursuivre cette émission avec... Takalenda, avant de vous donner la parole, mesdames Moulangala, parce que vous l'avez demandé, Takalenda, auditeur, qui nous écrit, disons, il n'a pas écrit, mais nous l'avons contacté, c'est notre consoeur Denise Mayo qui l'a contacté. Takalenda est auditeur de Kamina au Katanga. Il souhaite que le budget 2009, je cite, tienne compte des besoins réels de la population et surtout qu'il compte d'abord sur des ressources propres au gouvernement avant de compter sur l'apport extérieur. Mesdames Moulangala.
Je crois que le budget doit faire quoi, en fait? Le budget doit permettre au gouvernement de traduire en action concrète leur politique pour améliorer la vie des citoyens congolais.
C'est ça, le budget. Oui, parce que jusque-là, presque la moitié du budget congolais, on sait, c'est financé par l'extérieur.
Bon, ce n'est pas une chose qui doit nécessairement nous gêner. Mmh. Si nous avons des partenaires qui sont disposés à nous aider dans notre démarche sur le plan économique, ce n'est pas mauvais en soi. La question est de s'assurer que, sur ce point-là du moins, on puisse absorber ce qu'il est de manière optimale, qu'on puisse les orienter de manière aussi optimale, et que l'on puisse, quand nous serons maintenant prêts à décoder nous-mêmes, peut-être avoir son passé, peut-être avoir aller sur le marché commercial, comme tout le monde, solliciter des ressources pour pouvoir fonctionner. Donc, de ce point de vue-là, moi, je ne vois pas en quoi l'apport essaie de faire gêner, mais je suis d'accord avec le collègue, avec le frère qui a parlé, pour dire que un effort intérieur est essentiel. Et d'ailleurs, le budget 2008, comme on l'avait présenté, montrait clairement que les recettes en 2008 venaient pour 60% des recettes intérieures, 36% des recettes extérieures. Donc, il y avait déjà une inversion, que nous avons salué nous tous, mais qu'on tarde à voir dans les chiffres, parce qu'il n'y a pas eu vérification de la manière dont le budget est exécuté. Parce que ce que les frères disent, c'est quoi? On parle d'hôpital, on parle de route, on parle d'école. Mais tout ça, c'est le dossier chinois. On nous a dit ici que ce projet allait permettre, notamment, de régler les problèmes d'infrastructure. Route, école, hôpitaux. On a eu un grand débat sur la question à l'Assemblée nationale.
C'est-à-dire vous parlez de ça au chantier.
Oui, c'est ça la réalité du dossier chinois. Et on a constaté que ce dossier était appuyé sur une... nos réserves minières, aujourd'hui, avec la chute qu'on a observée sur les marchés internationaux, on doit revoir ce projet, parce que les prix ont changé. Et si on le fait, cela a un impact sur le projet que l'on doit faire. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas de manière transparente?
Bon, j'essaie que vous en parlez au de l'Assemblée nationale.
Non, mais écoutez, cette façon de gérer nous inquiète.
Voilà, vous l'avez déjà
dit.
Voilà, on va prendre la suite des réactions des auditeurs avec Titine Poutou qui vient de faire son entrée dans ce studio. Bonsoir, Titine.
Bonsoir Jean-Claude. Bin Saloum de Goma, au Nord Kivu, souhaite que le budget 2009 tienne compte des revendications sociales. Il espère donc que le gouvernement prévoit un salaire décent pour les fonctionnaires. Matamba de Lubumbashi au Katanga veut savoir comment est-ce qu'on élabore le budget. S. Le salaire sont une rubrique. Si c'est le cas, poursuit-il, Fécor s'est fait exprès de payer 6 000 $ à un député et 40 $ à un fonctionnaire de l'État. Papi Kazadi de Kanina, dans la province de Katanga, souhaite que le budget 2009 prenne en compte non seulement les besoins des parlementaires et des ministres, mais aussi de la population, avec le partage aussi à dos de Bukavu au sud. Brigitte Dissiro, dans la province orientale, souhaite que le budget 2009 ne soit pas fictif comme dans un film, mais plutôt une réalité pour les enseignants, les fonctionnaires, personnel de santé et le social de la population congolaise.
Et on termine par Farouk.
Farouk Matofali, lui, il prend l'exemple du Nord Kivu. Il dit ceci, en dehors de la guerre, il y a certains coins où l'on ne voit même pas l'impact visible du budget voté par l'Assemblée nationale. Il cite le territoire de Kamango, où il n'y a aucune réalisation du gouvernement depuis plusieurs années, et les ONG ont remplacé le gouvernement. Et pourtant, c'est un coin stratégique qui relie la RDC et l'Ouganda.
Merci beaucoup, Titine Poutou. Je reviens vers vous. Monsieur les députés nationaux, déjà vous avez suivi que certains auditeurs tels que Matamba de Lubumbashi et Papi Kazadi du Katanga disent ils sont pas très très contents de ce que vous recevez comme enveloppe salariale par rapport à ce qu'on donne aux fonctionnaires. Mesdames Moulangala.
Je crois que les chiffres sont là, les chiffres démontrent effectivement il y a des écarts très importants entre ce que gagne un député et ce que gagne un fonctionnaire, c'est une réalité. Nous devons essayer de tirer tout le monde par le haut. Ça, c'est le passé qu'on doit se rechercher à tout prix.
On peut s'attendre à ça dans le budget 2009 ?
Le budget de Pudo est un exemple.
Oui.
Dans le budget 2008, nous avions estimé qu'au sein du ministère d'enseignement supérieur, on pouvait réallouer les crédits de manière significative pour permettre, à l'intérieur de ce budget-là, d'augmenter de manière significative les émoluments et les prix du professeur.
Oui.
Encore une fois, c'est une action qui doit être faite par celui qui gère.
C'est le gouvernement.
Celui qui gère, c'est le gouvernement, ce n'est pas l'Assemblée nationale. Mais cela étant dit, je crois que je suis conscient de ce que disent les auditeurs. Vous devez aussi savoir que tous les députés, beaucoup d'entre nous, députés de Nuyongo, nous contribuons chacun, à sa manière, à beaucoup de projets locaux, à beaucoup de circonstances familiales, à beaucoup de circonstances d'étudiants et d'autres personnes. On n'a pas de dire ici, c'est la réalité.
Oui, c'est au niveau, chacun au niveau de sa famille. Hein,
non, mais on a famille, la vie, la
nation. Hein.
Moi, j'ai un parti politique, ou bien les associations, on essaie de contribuer un peu, mais ce n'est pas suffisant.
Ouais, si vous pouvez permettre à tous les Congolais de faire ce que vous faites.
L'objectif que nous devons chercher à atteindre, pour le faire, comme je l'ai dit, il faut qu'il y ait la transparence. Je vous donne un exemple. On me dit ici à Kinshasa, quand on a fait le contrôle des effectifs des policiers, on a trouvé, des fantômes. Alors, vous parlez de quoi? Et là, on ne peut pas agir. Et là, on ne peut rien faire par le gouvernement. Attendez, il y a un problème.
Donc, il y a moyen.
Fondamental.
Ouais, donc, si on vous comprend, il y a moyen de mobiliser quand même suffisamment d'argent.
Il y a un moyen de mobiliser l'argent dans ce pays si on contrôle mieux, si on est plus regardant, si on, en fait, on en pratique la bonne gouvernement.
Voilà, on va terminer par Hubert Massala parce qu'il ne reste plus qu'une minute pour terminer cette émission. Hubert Massala.
Oui, merci beaucoup. Je crois par rapport à la préoccupation sur les préoccupations de la population. Je crois que nous devons savoir qu'il faut qu'on trouve une solution, effectivement, pour que la population trouve son compte. Mais il ne faut pas non plus qu'on puisse se donner l'impression de certaines solutions qui ne sont pas des solutions. Je crois que le président de l'Assemblée nationale avait dit un jour qu'on peut prendre tout ce qu'on verse aux parlementaires et on met ça dans le budget en demandant aux parlementaires de ne même pas avoir un seul écoutant. Je crois que le fonctionnaire n'aura en plus qu'à peine 800 Congolais. Donc, ce n'est pas une solution.
Alors, il faudra commencer
à proposer des choses qui sont des solutions réelles. Alors, le problème, effectivement, dont on parle de 6 000 $ ou 4 000 $ pour les députés, un des points, nous tous, nous regrettons qu'aujourd'hui, on paie un fonctionnaire 40 $, qu'un enseignant souffre pour avoir de quoi nourrir sa famille. Nous en sommes conscients même parmi les premières victimes.
Merci beaucoup, Merci Hubert, parce qu'on a fini, c'est la fin de cette émission, Dialogue entre Congolais. Mimi Kindou était à la technique, réalisation signée Pierrot et la Mégie, assistée de Claude Kiaza, Titine Poutou, Berli Chaeka et notre stagiaire Karine Kaja, Touma Kamanga, Jean-Claude, je vous dis merci de nous avoir suivis.
Thank you.